Bon, c'est bien ça. Fait qu'il n'en reste plus. Je rappelle que s'il y en a qui n'ont pas encore donné leur nom pour leur adresse courriel pour recevoir les notes par courriel, c'est encore possible. Juste me laisser vos coordonnées à la fin du cours. Je vais vous ajouter à la liste d'envoi. Ça va bien ce matin? On a-tu des gens réveillés? De quoi on parle ce matin? Le royaume de Dieu. Quelle étude fascinante, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes comme moi et que vous êtes édifiés par ces leçons-là. Alors, on commence par une révision. OK, on a vu quand même des bases extrêmement importantes dans les trois premières semaines et on doit juste faire un petit wrap-up, si on veut, pour bien saisir tout ce qu'on a vu jusqu'à date. En fait, la semaine dernière, on a vu particulièrement la notion de royaume des cieux et royaume de Dieu. OK, donc, est-ce qu'il y en a qui pourraient me résumer vite fait, ça serait quoi la différence, s'il y en a une, entre royaume des cieux et royaume de Dieu? En levant la main. Et en me laissant le temps de répéter, puisqu'on enregistre. C'est quoi la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? Mais là, tu n'as pas le droit de lire mes notes puis de me le dire en même temps. Vas-y. Le royaume des cieux était utilisé plus par les Juifs, oui. Pour éviter d'employer le nom de Dieu. Ça, c'est un des aspects, un petit aspect, une possibilité même. OK? OK, donc en fait, c'est la même chose. Les Grecs utilisaient plus « royaume de Dieu ». OK, on a vu que Marc, Luc et Jean ne parlent jamais du royaume des cieux. En partant, Marc, Luc et Jean disent toujours, toujours « royaume de Dieu ». Et évidemment, ce sont des évangiles qui s'adressent davantage aux Grecs, aux païens, si on veut. Alors que dans Matthieu, c'est presque toujours le royaume des cieux. Il dit jamais le royaume de Dieu. Alors, on a vu que c'était probablement... Un des aspects était que c'était qu'il ne voulait pas utiliser le nom de Dieu en vain. On le sait qu'il avait tendance à systématiquement remplacer le nom de Dieu. Et aussi, on a vu que le fait est que le royaume des cieux, c'était le mot m'échappe, là, mais c'était la racine sémitique du mot. Alors que le royaume de Dieu, c'était l'expression grecque, en fait, plus. Je vois de mémoire, là, ici. En fait, oui, la forme grecque. Le royaume des cieux était la forme sémitique et le royaume de Dieu était la forme grecque de la même expression. Et on a vu que ces expressions-là étaient totalement interchangeables. Royaume de Dieu, royaume des cieux. On peut dire les deux sans aucun problème. Peut-être une petite notion qu'on a pu voir, c'est que le royaume des cieux faisait référence plutôt au domaine où Dieu exerce sa royauté. Et le royaume de Dieu fait plutôt référence au roi. Mais le royaume de Dieu, c'est celui qui règne. Le royaume des cieux, c'est l'endroit où il règne. Mais dans les faits, on a vu que ça pouvait vouloir dire la même chose, et même que ça pouvait être assimilé au salut, au fait d'être sauvé, à la vie éternelle. Okay? Le royaume de Dieu, la vie éternelle, le salut, c'est tous des synonymes. Ensuite, on a parlé du règne de mille ans. Ah, le règne de mille ans. Quelle histoire! Alors, on a vu que les Écritures suggèrent effectivement la possibilité d'une autre étape avant de passer à l'âge à venir. Okay, avant l'éternité, il y a des textes qui nous laissent croire qu'effectivement, il va probablement y avoir un règne intermédiaire entre l'éternité et ce qu'on vit présentement. Okay, cet âge-là ou cet intermédiaire-là, on l'appelle généralement le millénium. Et on a vu qu'il y avait quatre positions dominantes. S'il y en a qui pourraient juste me résumer, c'est quoi les quatre positions dominantes au niveau des positions millénaristes. C'est important, il faut connaître au moins ces choses-là, les quatre positions. Bon, Hugues, t'en connais deux, puis les deux autres, quelqu'un d'autre pourra en dire deux autres. Alors, tu parles de 1000, pré-1000. Okay, en partant, Hugues, définis-moi c'est quoi un pré-1000, c'est quoi un 1000. C'est quoi la différence entre les deux? Oh, j'aime. C'est une bonne définition. Alors, un serait déjà dans le millénium. L'an millénariste, c'est pas qu'il croit pas qu'il y a un millénium, c'est qu'il croit qu'on est déjà dedans. Et le pré-mille croit qu'il va y avoir un millénium terrestre. Donc, la différence entre un 1000 et un pré-mille, c'est qu'un croit que le millénium est terrestre, avec Christ physiquement à Jérusalem, et l'autre va dire non, c'est le millénium spirituel, Christ qui règne au ciel. Okay, on va voir ça, évidemment, pour ceux qui vont suivre le cours sur le millénium, on a plusieurs leçons juste sur cette notion-là. Alors, en mille prémille, maintenant, il y en a deux autres. Ce serait quoi les deux autres positions? En fait, une, c'est une subdivision. Oui, vas-y. D'accord. Donc, le prémille se subdivise en deux. Tu as prémille historique et prémille dispensationaliste. Est-ce que tu peux me donner vite fait la définition entre les deux, la différence entre les deux? OK, donc, parce que je dois répéter. Le en mille, le prémille historique ressemble aux amillénaristes, d'abord dans leur manière d'interpréter la Bible. OK, effectivement. Tandis que le prémille dispensationaliste. Bon, ils vont diviser la Bible en dispensations, mais ce n'est pas ce qui distingue un dispensationaliste. Même les prémilles historiques, les amillénaristes vont admettre qu'il y a différentes dispensations. La dispensation à l'époque de Noé, la dispensation de la loi, la dispensation de la grâce, c'est des choses différentes. Et ça ne fait pas de nous, d'un non-dispensationaliste, un dispensationaliste. La différence qui distingue un dispensationaliste, c'est deux choses. Premièrement, une interprétation littérale des Écritures. Et une nette distinction entre l'Église et Israël. Ça, c'est ça qui distingue un dispensationaliste. Mais on aura l'occasion, évidemment, de voir ça plus à fond dans un autre cours. Bref, quatre positions, il en manquait une, par exemple. On a vu prémille historique, prémille dispensationaliste, amillénariste. Post-millénariste, voilà. Il n'y a plus beaucoup de gens, encore une fois, qui adhèrent à cette position-là aujourd'hui. Mais ça a été très populaire au 19e siècle. Et ça a donné naissance, évidemment, à tout un essor au niveau de l'évangélisation dans notre société, au niveau des structures sociales, tout ça, d'amener le chrétien, si on veut, dans les écoles, ces choses-là, dans le gouvernement. Alors, donc, quatre positions. On a vu aussi la semaine dernière la perspective prophétique. Qu'est-ce que c'est la perspective prophétique? Lorsque le prophète voit, a une vision de l'avenir, quelle est sa perspective? Comment est-ce qu'il voit les choses? Est-ce qu'il voit ça parfaitement, le prophète? Est-ce qu'il voit les choses chronologiquement? Est-ce qu'il voit les choses exactement ou si c'est des représentations de? Qu'est-ce qu'on appelle la perspective prophétique? Il voit tout sur un même plan. Donc, effectivement, il voit l'avenir comme un événement unique. OK? Et ne fait pas de distinction, par exemple, lorsqu'on parle du jour du Seigneur, parfois ça va être la première venue de Jésus, parfois ça va être la deuxième venue de Jésus. Il n'est pas conscient, le prophète, qu'il y a déjà plus de 2000 ans qui séparent ces deux événements-là. Pour le prophète, il voit l'événement, l'avenir comme un événement unique. Donc, ça nous complique la tâche un petit peu lorsque vient le temps d'interpréter les prophéties, parce qu'on doit se mettre en tête que le prophète, ce qu'il nous décrit, c'est pas exactement la réalité dans ce sens que c'est il voit tout l'avenir comme un événement unique et c'est à nous de le décortiquer et souvent c'est uniquement lorsque la prophétie est accomplie qu'on est en mesure de voir que cette prophétie là elle était vraiment comme ça littéralement alors qu'une autre prophétie va s'accomplir plus spirituellement ou va s'accomplir plus tard dans le temps. Donc la perspective prophétique est un élément fondamental qu'on doit comprendre lorsqu'on lit les textes prophétiques. Et ça explique aussi certaines difficultés, donc, lorsque vient le temps d'interpréter la question du millénium, est-ce que c'est présent, est-ce que c'est à venir, aussi c'est des questions plus difficiles. Mon micro griche un petit peu. Est-ce qu'il y a moyen peut-être juste de baisser le volume de ce micro-là, non? Il n'y a personne qui s'occupe de ça actuellement. OK. Pas que ça griche, mais ça me... ma barbe. Ça, oui. OK, excusez-moi. Je me rase pas la fin de semaine. OK, on avait vu auparavant les vérités suivantes. Donc, le plan rédempteur de Dieu se divise en deux époques. On avait vu ça dans la leçon 1. Oui? La perspective prophétique, le fait que les prophètes voient l'avenir comme un événement unique, c'est pas toujours comme ça, tu me dis. C'est sûr que s'ils voient juste un événement qui est arrivé, bien, c'est sûr que cet événement-là est arrivé une fois dans le temps. Mais si le prophète voit très, très, très loin, il ne fera pas la distinction dans le temps. Il va décrire. Même Jésus, lorsqu'il parle de la destruction du temple, je veux dire, il mélange, si on veut, ou il y ramène dans une même phrase la destruction de Jérusalem et la fin du monde. Okay? Alors, Jésus, lorsqu'il prophétise de cette façon-là, a cette perspective prophétique. Donc, c'est un seul événement, c'est la fin. N'est-ce pas? Et je vous rappelle qu'on est dans la fin, hein? Présentement, on est dans les derniers jours. Alors, là encore, il y a toute une espèce de notion qu'on doit intégrer. C'est que, écoutez, ça fait 2000 ans qu'on est à la fin des temps, là. Okay? Et c'est une réalité, on ne peut pas le nier. On avait vu donc que le plan rédempteur de Dieu se divisait en deux époques. Il y avait l'âge présent et il y avait l'âge à venir. Okay? On avait vu toute la notion de éon, que ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était hors du temps, mais que l'éternité est un temps sans fin et qu'il y aurait une brisure, une séparation entre le temps présent et le temps à venir. Le royaume de Dieu, on a vu aussi, fait partie de l'âge à venir et ne se réalisera pas dans sa plénitude, dans cet âge-ci, puisqu'on a déjà démontré que l'âge dans lequel nous vivons était un âge mauvais, duquel on devait être arraché, duquel le Seigneur nous avait racheté. Mais donc, que ce n'était pas dans cet âge-ci qu'on va connaître la plénitude du royaume de Dieu. Et donc, que le royaume de Dieu était pour l'avenir. Maintenant, si on devait finir notre étude à ce stade-ci, si on avait arrêté maintenant, tout ce qu'on aurait, ou notre rédemption, se réduirait tout simplement à une promesse, n'est-ce pas? En ce sens que notre salut serait une sorte de police d'assurance, une protection pour l'avenir. Le jour du jugement s'en vient, mais mon salut m'en préserve, n'est-ce pas? Si on arrête là, si c'est juste le royaume et juste pour l'avenir, c'est juste une espérance que j'ai. C'est sûr que c'est important d'avoir cette espérance-là, d'être assuré, et l'espérance me donne la paix, la tranquillité face à l'avenir, mais ça ne me donne rien par rapport à aujourd'hui, à part un sentiment de sécurité. Êtes-vous d'accord avec ça? Si on arrêtait ici, si le royaume était uniquement pour l'avenir, je n'aurais qu'une espérance lointaine à dire, ah, un jour le Seigneur va revenir, un jour je vais goûter à sa grâce, un jour je vais goûter à son royaume. OK, ça ne serait pas pour maintenant. On n'aurait qu'une religion qui promet quelque chose ou un évangile de l'espoir, qui offre de l'espoir. Mais en fait, on a appris que le message, que le passage de cet âge à l'âge à venir ne se produira pas du jour au lendemain. Et c'est ce qu'on a vu lorsqu'on a parlé du millénium. Donc, on a vu que le passage du royaume éternel versus aujourd'hui, ça ne se passera pas du jour au lendemain. Et qu'il y a une espèce de chevauchement entre cet âge et l'âge à venir qu'on a appelé justement le millénium. On a vu qu'il n'y avait pas seulement une résurrection des morts, mais qu'il y avait deux résurrections des morts, qui étaient justement, une était au début du millénium, l'autre était à la fin du millénium. La réalité, c'est que le royaume de Dieu, c'est plus qu'un royaume à venir et qu'un règne de Christ sur la terre pendant 1000 ans. C'est sûr qu'il y a un chevauchement entre cet âge et l'âge à venir. Et qu'il y ait ou non un millénium terrestre, il y a actuellement un règne spirituel de Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, on comprend qu'il va y avoir un chevauchement entre cet âge et l'âge à venir, qu'on a appelé millénium, un règne de Christ, n'est-ce pas? Mais l'espérance qu'on a est beaucoup plus que quelque chose d'avenir, puisque peu importe l'interprétation qu'on va avoir, qu'il y ait un millénium terrestre ou non, la chose qu'on peut affirmer aujourd'hui, c'est que Christ règne. Vous êtes d'accord avec moi? Si Christ règne, il y a donc en ce moment un millénium spirituel. Est-ce que c'est le même que le millénium à venir? Peut-être que non. On ne peut pas le savoir avec une assurance complète. Mais il y a une chose qui est certaine, Christ règne présentement et il y a bien un règne de Christ spirituel. Et il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui sont clairs à ce sujet-là et qui nous expliquent que les bénédictions de l'âge à venir, les bénédictions qu'on espère, ne sont pas exclusivement réservés pour le futur, mais qu'on peut en faire l'expérience dès maintenant. Aujourd'hui même, les puissances à venir nous sont accessibles dans une certaine mesure. Les bénédictions du royaume futur ne sont pas uniquement que des bénédictions à venir, ils sont aussi accessibles maintenant dans une certaine mesure. Pas pleinement, pas parfaitement, mais certainement dans une certaine mesure. Hébreux 6, 5 nous parle de ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Les puissances du siècle à venir sont, dans une certaine mesure, accessibles maintenant. L'âge à venir est toujours futur, mais on peut déjà goûter la puissance de l'âge à venir. Ou on pourrait dire que la puissance de l'âge à venir a déjà pénétré dans l'âge présent. Une espèce de chevauchement entre les âges. On est dans le présent, mais l'âge à venir est déjà commencé à envahir l'âge dans lequel nous sommes. Bien qu'on vit toujours dans un siècle mauvais, bien que Satan soit toujours le dieu de cet âge, on peut goûter aux puissances de l'âge à venir. Notez ici une petite parenthèse. Goûter ne veut pas dire qu'on a droit à un repas sept services. Hein? Alors, goûter les puissances à venir, ce n'est pas d'en faire une expérience complète, mais c'est d'y goûter, c'est d'avoir un avant-goût de ce que ça va être. La puissance de Dieu. La plénitude des promesses demeure une espérance plutôt future, mais on a droit à un avant-goût de ce qui nous attend dans l'âge à venir. C'est plus qu'une promesse, c'est une réalisation, c'est une espérance qui est vécue. Dans Galates 1:4, Jésus nous dit, en fait, ça parle de Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Nous arracher au présent siècle mauvais, ça ne fait pas référence à une espérance future. Ça fait référence à une réalité présente. Est-ce que Christ va m'arracher plus tard à ce siècle mauvais? Non. Christ m'a arraché à ce siècle mauvais en se donnant lui-même pour nos péchés. On vit dans un âge mauvais, mais Christ nous a délivrés de son pouvoir. Et cette délivrance-là vient de ce que la puissance de l'âge à venir nous a touchés et s'est projetée en la personne de Christ dans le siècle mauvais du présent, pour que par la puissance de l'âge à venir, on puisse être libéré du présent âge mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est que la seule manière qu'on pouvait être libéré du monde mauvais dans lequel on vit, c'était si le royaume de Dieu venait dès maintenant commencer à s'établir sur la terre, dans nos cœurs. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Et comme le royaume de Dieu vient commencer à faire sa place ici-bas, on peut déjà donc être libéré des pouvoirs de cet âge mauvais et déjà faire l'expérience de l'âge à venir. Christ, en venant dans le monde, a fait entrer la puissance de l'âge à venir dans le présent. C'est cette puissance qui peut nous libérer de la puissance du siècle présent. Romains 12, 2 dit quelque chose de semblable. En fait, il faut le déduire, mais ça reste un peu la même chose. Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Comment est-ce qu'on peut ne pas se conformer au siècle présent, selon Romains? Ne pas vivre selon le train de ce monde, mais si on reste dans le contexte, là, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés. Donc, par une transformation intérieure, c'est la seule manière qu'on a de ne pas se conformer au siècle présent, c'est de vivre cette transformation intérieure, cette transformation qui est le résultat de la puissance du royaume ou du règne de Dieu dans nos vies. Si Dieu règne dans ma vie, Dieu entreprend cette transformation, ce renouvellement, il fait de moi une nouvelle créature et me donne, par le fait même, la possibilité d'échapper au pouvoir de ce siècle. Oui, Gérard.
Si je renonce à quelque chose de ce siècle, que mon intelligence soit renouvelée?
Est-ce que ça se peut, si tu renonces aux choses de ce siècle, que ton intelligence soit renouvelée? Regarde, c'est pas juste le renoncement qui va faire que tu vas être renouvelé, c'est l'Esprit Saint qui va faire que tu vas être renouvelé. Oui, Romain dit par la suite, « Conformez-vous pas, mais plutôt offrez vos corps en sacrifice vivant. » Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr qu'il y a un renoncement qui va être nécessaire, mais je ne crois pas que le renoncement est ce qui précède. Je crois que ce qui précède, c'est la nouvelle naissance. Tu comprends-tu? Je veux dire, ce qui fait que je peux être renouvelé, ce qui fait que je peux offrir mon corps en sacrifice vivant, c'est pas de moi-même, là. Parce que de moi-même, je fais rien de bon. OK? Quand je fais quelque chose de bon, c'est parce que c'est Christ qui le fait en moi. C'est le Saint-Esprit qui me transforme. C'est le Saint-Esprit qui me renouvelle. C'est la puissance du royaume, du règne de Dieu dans ma vie. Si vous êtes dans le royaume de Dieu, vous avez cette puissance-là. de résister au diable. Vous avez cette autorité-là au nom de Jésus. Ce n'est pas rien de mystique, là. On a cette capacité-là, puisque c'est l'âge à venir qui est déjà entré dans le moment présent. Le siècle mauvais suit son cours, mais Dieu a rendu possible l'expérience d'une puissance nouvelle au milieu même de ce siècle mauvais. Cet nouvel élément-là, cet élément présent du royaume, va nous obliger à reconsidérer notre diagramme. Alors, vous vous souviendrez du diagramme qu'on avait fait la semaine dernière. Il n'y avait pas cette section aussi. Okay, vous aviez évidemment la création, la première résurrection, donc le retour de Christ. Excusez-moi. Non, j'ai placé le retour de Christ au mauvais endroit ici. Retour de Christ. OK, c'est ça. Vous aviez l'âge présent. OK, le retour de Christ, la première résurrection, il y avait un millénium et il y avait la deuxième venue, puis l'âge à venir qui chevauchait le millénium. Et là, on voit que l'âge présent dans lequel on est, depuis la résurrection de Christ, on chevauche aussi l'âge présent. Ceux qui ont les notes, peut-être que vous pourrez le voir, sinon allez vérifier, évidemment. Le fait est que, selon cette hypothèse, c'est une hypothèse évidemment pré-mille historique dans ce cas ici, il y aurait un chevauchement entre les deux âges au niveau du millénium terrestre de Christ, mais force est d'admettre qu'il y a présentement un chevauchement entre l'âge avant Christ, si on veut, et le millénium. Chevauchement, c'est qu'ils sont en même temps. Ils sont un par-dessus l'autre. Quand tu chevauches, tu embarques par-dessus le cheval. Alors, quand deux choses se chevauchent, ils embarquent un par-dessus l'autre. OK? Alors, on voit bien qu'il y a un chevauchement donc des âges pendant la période du millénium, mais il y a actuellement aussi un chevauchement de l'âge futur et de l'âge présent. Et donc, le diagramme final pré-mille historique nous montre que le royaume de Dieu appartient à l'âge à venir. OK? Il n'y a aucun doute là-dessus. Pourtant, l'âge à venir déborde dans cet âge et on peut goûter à ses pouvoirs ainsi être délivré de cet âge et ne plus y conformer nos vies. Ça, c'est la position, évidemment, pré-mille historique. Si j'étais un A-1000, allez savoir, ce que je ferais, c'est que, en fait, ça ne change absolument rien. Dans le cas si d'un amillénariste, il enlève tout simplement la partie millénium qui vient plus tard, puisqu'il dit le millénium, c'est maintenant. Et donc, tu as le millénium qui se chevauche. À ce moment-là, la résurrection de Christ et la première résurrection, c'est la nouvelle naissance. Et au retour de Christ, il n'y a pas un autre millénium, mais il y a l'âge, l'éternité, finalement, qui commence. OK? Donc, et encore une fois, je ne veux pas trop embarquer dans le millénium parce qu'on va y arriver, mais c'est quand même intéressant, cette notion-ci. C'est que, selon le prémillénarisme, il y a un millénium terrestre, mais force est d'admettre, comme j'ai dit, qu'il y a un millénium spirituel présentement. Il y a un règne de Christ spirituel. Il ne l'appelle pas millénium, mais c'est un règne de Christ spirituel présentement. Et donc, le royaume est à venir, mais il est déjà entré dans l'âge présent. Il va entrer encore plus dans l'âge présent dans le millénium terrestre, et ensuite, ça va être le royaume de Dieu. Donc, il y a comme, avant la venue de Christ, l'ère de l'Église, le millénium et l'éternité. Voyez-vous, il y a comme quatre étapes. Les amillénaristes vont avoir une étape de moins. Ils vont dire, il y a avant Christ, il y a depuis Christ, c'est l'ère de l'Église qui est le règne spirituel de Christ, et Christ revient et ça va être l'éternité. Voyez-vous? Mais peu importe l'hypothèse que vous allez prendre, ça ne change absolument rien. Le royaume de Dieu est à venir et il a envahi cet âge mauvais afin que les hommes puissent connaître quelque chose des bénédictions de l'avenir au sein même de cet âge mauvais. Voyez-vous, l'enseignement sur le royaume ne dépend pas de votre position eschatologique, que vous soyez millénariste ou amillénariste. Vous allez arriver aux mêmes conclusions par rapport au moment présent, par rapport au fait que le royaume vit et est actuellement, a déjà commencé. Oui, Jean-Jeff. Par les amillénaristes? Alors, évidemment, si tu es millénariste, tu crois que ça va se faire au retour de Christ, que Satan va être enchaîné pendant 1000 ans. Donc, la question était comment expliquer que Satan est enchaîné pendant 1000 ans. La millénariste va prendre le texte de... Donne-moi 2 secondes. la millénariste va prendre le texte de Matthieu 4, non, de Matthieu 12, au verset 29, où Jésus chasse, en fait, 22 à 29, où Jésus chasse les démons. Et Jésus, par une parabole, explique qu'il lui serait impossible de chasser les démons s'il n'avait pas préalablement lié l'homme fort qui est Satan. Donc, Jésus déclare dans Matthieu que Satan est lié et que c'est pour ça qu'il est capable de piller ses biens. C'est une parabole qui a pas de... Même les millénaristes le comprennent comme ça. Sauf qu'ils vont dire que ça ne s'applique pas à l'enchaînement de 1000 ans. Et le problème vient toujours du fait de notre compréhension de c'est quoi être enchaîné. On dit, ah, être enchaîné, ça veut dire qu'il est lié là et il ne peut plus bouger. Ah, il est dans l'abîme, nous dit l'Apocalypse 20. C'est vrai? Jude nous dit que les démons présentement sont dans l'abîme, puis on n'est pas dans l'Apocalypse 20 encore. Comprends-tu? Jésus me dit que Satan est lié, puis on n'est pas dans l'Apocalypse 20 encore, théoriquement. Si tu es un millénariste, tu crois qu'on est dans l'Apocalypse 20, présentement. Mais le prémillénariste croit que ça va être après le retour de Christ. Il croit que Satan n'est pas encore enchaîné, qu'il n'est pas encore lié. Encore une fois, lié de quoi? Il est lié pendant 1000 ans, donc 1000 ans étant une longue période de temps. Dans quel but, nous dit Apocalypse? Afin de ne pas séduire les nations. Le but de que Satan... En fait, Satan est restreint dans son œuvre de séduire les nations. Avant la venue de Jésus, le salut est offert aux Juifs exclusivement et pas offert aux païens. Maintenant, le salut est offert aux païens. Satan est empêché de séduire les nations. Les nations ont accès au royaume de Dieu. Les prophéties de l'Ancien Testament qui nous parlent que le royaume de Dieu va... que toutes les nations vont affluer au royaume de Dieu. Je veux dire, lis Ésaïe 2, puis comprends-le comme étant aujourd'hui. Tu vas voir que c'est très pertinent, là. Mais encore une fois, c'est une interprétation, OK? Il y a des textes qui nous laissent croire que il va y avoir un millénium terrestre. D'autres textes peuvent être interprétés comme quoi il n'y en aura pas de millénium terrestre. On le verra. Prémillénariste ou prémillénarisme? Ben pour l'amillénarisme, Satan enchaîné veut dire qu'il ne peut plus rien faire. Et là, les nations vont monter à Jérusalem une fois par année. Il va y avoir des sacrifices. Le temple est reconstruit, tout ça. Là, c'est assez particulier. L'Église... Non, l'Église règne pendant 1000 ans avec Christ. Ça, là, vraiment, il faut que tu sois mon cours sur le millénium. Okay? Là, on embarque vraiment, vraiment trop loin dans le millénium. Mais le fait est que, peu importe votre position eschatologique, l'enseignement sur le royaume de Dieu, elle, ne change pas. Le royaume est pour l'avenir. Et présentement, on peut faire l'expérience du royaume. Est-ce que vous comprenez ça? OK? Alors, que ce soit le chevauchement présent qui est le millénium ou que ce soit actuellement que le royaume est là spirituellement puis qu'il va être terrestre au millénium puis qu'il va après ça, ça va être l'éternité, peu importe. OK? L'enseignement sur le royaume de Dieu ne change pas. Le royaume est pour l'avenir, dans l'éternité, mais présentement, on peut en faire l'expérience. Alors, pour bien comprendre de quelle manière le royaume s'établit. En fait, ce qu'on vient de réaliser, c'est que le royaume ne s'établit pas en une seule étape. D'accord? Le royaume s'établit en plusieurs étapes. Comme le jour du Seigneur ne s'est pas réalisé en un seul jour, mais on se rend compte avec la venue de Jésus que le jour du Seigneur, ça a commencé avec la première venue de Jésus, puis ça va se terminer avec la deuxième venue de Jésus, ou après le millénium pour ceux qui croient au millénium terrestre. D'accord? Donc, de la même manière, le royaume de Dieu ne s'établit pas en une seule fois. Le royaume de Dieu s'établit par étapes. Et c'est un petit peu ce que 1 Corinthiens 15 nous dit, lorsqu'il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 22 à 26, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. » Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui va être détruit, c'est la mort. Alors, ces étapes nous montrent un petit peu comment Dieu accomplit son plan rédempteur par étapes. Christ ressuscite comme prémisse, n'est-ce pas? Ensuite, les croyants vont ressusciter. Le prémille va dire qu'il ressuscite à la première venue de Jésus. Le millénariste va dire que En fait, lorsque le Seigneur revient, on ressuscite aussi, mais je vous parlais de la nouvelle naissance qui est perçue comme étant la première résurrection. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume au Père, et là on parle évidemment de résurrection générale pour le jour du jugement. Donc il y a des étapes à l'établissement du royaume. Trois étapes avant la réalisation de l'objectif ultime, à savoir accomplir le royaume de Dieu et réaliser le règne parfait de Dieu sur tout l'univers. Laissez-moi prendre une petite gorgée. Le royaume de Dieu va être parfaitement établi quand? Lorsque tous les ennemis de Christ auront été mis sous ses pieds. On attend le royaume de Dieu, on espère le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça va apporter, le royaume de Dieu? Bien, lorsque le royaume de Dieu va être établi, tous les ennemis de Christ vont avoir été détruits. C'est ça, le royaume de Dieu. Cette victoire... Bougez pas. Et le dernier ennemi qui va être détruit, c'est la mort. Mais cette victoire sur la mort ne se réalise pas non plus en une seule étape, on l'a vu, mais bien en trois étapes. Christ ressuscite premièrement. Première victoire sur la mort. C'est vrai? Ensuite, les croyants ressuscitent. Deuxième victoire sur la mort. Et ensuite, la mort est jetée dans les temps de feu. La résurrection finale, dernière étape, dernière victoire sur la mort. La mort n'existe plus, elle est jetée dans les temps de feu. Par étapes. La mort a été vaincue, a été commencée à être vaincue quand? Quand Christ est ressuscité. Christ ressuscite, ah, première victoire sur la mort. Ensuite, les croyants ressuscitent, deuxième victoire sur la mort. Et encore une fois, si je fais le parallèle, lorsqu'on est de nouveau, la parole nous dit qu'on est passé de la mort à la vie, n'est-ce pas? Donc, victoire sur la mort. On était mort, on n'est plus mort. On a la vie éternelle de maintenant. Et évidemment, à la fin, résurrection finale. 1 Corinthiens 15, donc, nous présente une vision eschatologique qui est comparable à Apocalypse 20, qui nous présente une première résurrection avant la résurrection générale. Okay? Et dans le diagramme qu'on a vu, évidemment, c'est montré par la résurrection de Christ, la première résurrection et la deuxième résurrection. Le royaume de Dieu est donc le règne de Dieu par le Christ qui détruit les ennemis du règne de Dieu. Le royaume de Dieu va s'accomplir parfaitement lorsque tous les ennemis de Dieu vont être détruits. Et la résurrection de Christ est au cœur de notre prédication et de notre espérance parce qu'elle est les prémices de la victoire sur la mort. Acte 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Dans Acte 23, 6, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens, et l'autre de pharisiens s'écria au Sanhédrin, « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien, et c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Dans 1 Corinthiens 15, « Et Christ, si Christ n'a pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, notre foi aussi est vaine. » Et un peu plus loin, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. » Donc, comment est-ce que moi, aujourd'hui, je peux croire que je vais avoir la vie éternelle? Comment je peux croire ça? Oui? Parce que Christ est ressuscité. Exactement. Si Christ n'était pas ressuscité, j'aurais un bien drôle d'espérance de moi ressuscité. Mon sauveur est mort et est encore dans la tombe. Je ne sais pas. Mais moi, je crois que je vais ressusciter, par exemple. Comprenez-vous que ça aurait comme... On serait carrément stupide, là. Maintenant, Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Ah! Espérance de la résurrection pour les croyants. C'est la résurrection de Christ qui m'assure ma propre résurrection. Le royaume de Dieu va s'établir lors de la défaite des ennemis de Dieu, le dernier ennemi qui va détruire, c'est la mort. Mais d'où vient la mort? Question piège comme ça. Du péché. La mort vient du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et d'où vient le péché? Pardon? Le péché vient d'où? La désobéissance, oui, mais est-ce qu'il y a la rébellion de Satan? Ça vient de Satan lui-même. On pourrait bien faire des débats là, pour savoir d'où vient exactement le péché, mais sans faire un débat profond, on peut certes affirmer que Satan en est à l'origine. On trouve donc trois grands ennemis de Dieu. La mort, le péché et Satan. Ce sont trois ennemis qui doivent être détruits pour que le royaume de Dieu s'établisse parfaitement. En ce qui concerne Satan, on a vu que sa défaite se réalise au moins en deux étapes. Okay? On a vu qu'avant le millénium, il était lié. Première défaite. Deuxième défaite au royaume de Dieu, plutôt à la fin du millénium, lorsqu'il est jeté dans l'étang de feu. Okay? On voit qu'il y a déjà une étape dans la défaite de Satan. Et encore une fois, qu'on croit que le millénium est maintenant et qu'il soit déjà lié, ou qu'on croit qu'il va être lié plus tard au début d'un millénium terrestre, ça ne change rien. C'est quand même des étapes avant sa destruction finale, n'est-ce pas? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, la destruction de Satan. On en arrive maintenant donc à la question fondamentale de ce chapitre. Le triomphe de Christ sur ses ennemis a-t-il déjà commencé ou notre salut est-il réduit à une promesse? Est-ce que le royaume a déjà commencé ou si c'est encore uniquement pour l'avenir? C'est ça qu'on étudie aujourd'hui. La défaite du péché, de Satan et de la mort par le règne de Christ, est-ce qu'elle appartient uniquement au futur ou est-ce qu'une première victoire a déjà eu lieu? On l'a vu par rapport à la mort, il y a déjà eu une première victoire qui a eu lieu, mais par rapport à Satan, par rapport au péché, est-ce qu'il y a déjà eu une victoire? Il y en a qui ont une réponse à ça? Sur notre vie personnelle, notre nouvelle naissance, le règne de Christ dans nos vies, ça a rapport à le fait que c'est déjà commencé? Oui. Ça, c'est de dire que le royaume de Dieu est déjà établi, est déjà commencé, puisque Christ règne dans nos vies. Mais est-ce que la victoire sur la mort, la victoire sur la mort est déjà commencée parce que la première résurrection a eu lieu, la résurrection de Christ, en fait, la prémisse. Par contre, qu'en est-il du péché et de Satan? Est-ce que le péché a déjà commencé à être vaincu? Est-ce que Satan a déjà commencé à être vaincu? On dit oui, on va regarder ça ensemble. Dans notre vie, oui. Pas nécessairement dans le monde. Allons voir quelques textes peut-être ensemble. La question est de savoir si le royaume de Dieu a envahi le domaine de Satan dans l'âge présent. Hébreux 2, 14 nous dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sein et à la chair, lui aussi, Christ, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. » Qu'est-ce que nous dit ce texte-là? Qui sont ceux qui croyaient que Satan était pour être détruit uniquement au retour du Seigneur? Est-ce qu'il y en a qui croyaient que Satan était pour être détruit uniquement au retour du Seigneur? Il va être détruit au retour du Seigneur complètement. Mais actuellement, il a commencé à être détruit. Et en fait, ce que le texte nous dit, c'est que ce qui détruit Satan, ce n'est pas son retour final, c'est sa mort qui détruit Satan. La mort de Christ détruit Satan. Et encore là, on se pose des questions, parce qu'on dit, mais si Satan est détruit, pourquoi Pierre nous dit qu'il rôde toujours comme un lion? Hein? Et encore là, il faut faire une nuance par rapport... sur le sens du mot « détruire ». Alors, même chose que le sens du mot « lier » que j'ai parlé tantôt. Le mot grec « détruire », c'est « cartageo ». Alors, je ne suis pas grec, mais c'est ce qu'on me dit, qui signifie littéralement « mettre hors d'action » ou « rendre inopérant ». Alors, ce n'est pas que Satan a été mis dans l'étang de feu déjà, mais Satan est rendu inopérant, est rendu hors d'état de nuire ou hors d'action dans un certain domaine de son pouvoir, si on veut. La mort de Christ a bien détruit Satan. Dans la mort, le Christ a fait quelque chose qui a mis le démon en échec, en ce sens que son activité et son pouvoir ont été restreints. De même, lorsque le royaume de Dieu se manifeste, de même que le royaume de Dieu plutôt se manifeste en trois étapes dans la victoire de la mort, de même, le royaume de Dieu révèle aussi sa puissance en trois étapes dans la défaite de Satan. Alors, par rapport à la résurrection ou à la mort, on a vu que Christ ressuscite, première victoire sur la mort. Les croyants ressuscitent, deuxième victoire sur la mort. et à la fin, la résurrection générale, troisième victoire sur la mort. Satan, c'est la même chose. À la croix, lorsque Christ meurt, première défaite. Ensuite, lié dans l'abîme au début du millénium, qu'il soit maintenant ou à venir, ça ne change rien, deuxième défaite. Et dans les temps de feu, à la fin du millénium, troisième et dernière défaite, et défaite finale à ce moment-là. François. En quoi Satan est présentement restreint? Bien, d'abord, la parole me dit qu'il est restreint. Okay. On voit que pour les croyants, il n'y a pas de pouvoir sur nous. Okay. Et on voit que lorsque Christ est venu, il a vraiment restreint le domaine de Satan. Alors, le royaume de Dieu, le royaume à venir, a déjà commencé à agir dans ce siècle-ci. Et en ce sens, Satan, parce qu'ici, c'est le royaume de Satan, là, sur la terre, là. OK? C'est pas le royaume de Dieu, là. Ici, c'est le royaume de Satan. Mais le royaume de Dieu a commencé à envahir le royaume de Satan. La guerre est commencée, puis Christ a déjà eu une première victoire. Victoire sur la mort par sa résurrection, victoire sur Satan par sa mort. Et c'est ce qu'Hébreu nous dit, on peut le relire. Christ a participé à la chair afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, par sa mort, Christ a écrasé le diable. Et le diable a maintenant, est en quelque sorte lié, puisqu'il n'y a plus, autant de pouvoir qu'il y avait. La preuve, c'est qu'on peut, le Saint-Esprit a beaucoup plus de liberté. Oui, encore une fois. Bien, qu'est-ce qu'il pouvait faire avant que maintenant il ne peut plus faire? C'est une bonne question. Déjà, en partant, je te dirais qu'au niveau des nations, il y avait une emprise totale, OK? Et que maintenant, il n'y a plus cette emprise-là au niveau des nations. Je vais te dire juste ça. Il faudrait que je vérifie qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, parce qu'il y en a sûrement d'autres actions, là. Toi, ton constat, c'est que Satan n'a jamais eu autant d'emprise. Je crois que non. Je crois que Satan a eu beaucoup, beaucoup d'emprise. Si tu regardes, les cultes païens, non, Satan avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emprise avant la venue de Jésus. Bien, OK, je veux juste que je répète encore une fois parce que c'est enregistré. Alors, tu vois que Satan a changé de stratégie, mais tu fais pas le constat qu'il est moins actif qu'avant. La Bible me dit qu'il est moins actif. La Bible me dit que Jésus l'a lié et que Jésus, par son pouvoir, par son autorité, a tassé Satan un petit peu plus dans ses retranchements. On va voir d'autres textes tantôt. On va passer à d'autres questions, puis on va voir d'autres textes tantôt en rapport à ça. Oui, Gérard. Un verset qui dit « Résistez à Satan, il fuira loin de vous. » Et avant que Christ vienne dans ta vie, tu ne pouvais pas résister à Satan. Alors, effectivement, dans l'Église même, Satan n'a plus le pouvoir qu'il avait, c'est clair. Il peut encore nous tenter, il peut encore nous faire tomber. Il nous accuse encore. Mais il n'y a pas l'autorité ni le pouvoir qu'il avait auparavant. On va continuer. Puis peut-être on pourra y revenir. Je pense que j'ai d'autres textes qui vont nous... peut-être nous approcher de ça. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que le royaume de Dieu n'arrive pas d'un seul coup. Victoire sur la mort en trois étapes, victoire sur Satan en trois étapes. Christ, à la croix, l'a écrasé. C'est ce qu'Hébreu me dit. Alors, je peux bien croire ou pas croire, mais c'est ce qu'Hébreu dit. On voit qu'au début du millénium, encore une fois, qu'il soit présent ou à venir, il y a une restriction qui est posée sur Satan, il est lié. Et à la fin du millénium, il est carrément jeté dans les temps de feu. Donc, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Alors, il reste une dernière démonstration à faire pour bien comprendre que le royaume de Dieu a bel et bien envahi l'âge présent et mauvais. Et peut-être ça va répondre un petit peu plus à ta question aussi. Matthieu 4, 23 nous dit, « Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il existe en effet un lien entre le ministère de guérison et d'exorcisme du Seigneur et le royaume de Dieu. Il y a un lien entre les œuvres que le Seigneur Jésus faisait, de guérir des malades et de chasser les démons, et le royaume de Dieu. En guérissant les malades et en chassant les démons, Jésus manifestait la puissance du royaume de Dieu dans cet âge. En faisant ça, Jésus est en train de tasser Satan dans le coin en lui disant « C'est plus ton royaume à 100% ici, car j'ai commencé à arriver, moi, là. Puis ça va se finir quand je vais revenir. Mais en attendant, je suis déjà là. Puis il y a mon Église qui va être ici. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Prenons l'exemple de Matthieu 12. Matthieu 12, 22 à 28. Et là, j'ai omis le verset 29 qui parle que Satan est lié, mais vous le lirez pour ceux qui... Jean-Sébastien, si tu posais la question. Dans le contexte, là, c'est clair que Jésus explique que si je peux chasser les démons, c'est parce que j'ai lié Satan. Sinon, je ne pourrais pas le faire. C'est ce qu'il dit. Alors, au verset 22 de Matthieu 12. « Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet voyait et parlait. Toute la foule, hors d'elle-même, disait, « N'est-ce pas là le fils de David? » Les pharisiens l'ayant appris, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Dieu est maintenant à l'œuvre parmi les hommes pour les délivrer des chaînes de Satan. Lorsque les gens se convertissent, lorsque les gens naissent de nouveau, passent de la mort à la vie, bien, ils sont arrachés au royaume de Satan et transportés dans le royaume de Dieu. Et pour faire ça, François, il faut que Satan soit lié. Il faut que Satan soit restreint dans son ministère, si on veut, dans son œuvre, dans sa manière de procéder. Okay. Ça, c'est très nouveau. Ça n'existait pas avant. Okay. Maintenant, on a cette option-là. En Jésus-Christ, Dieu attaque le royaume de Satan en personne. Chasser les démons prouve que le royaume de Dieu est venu parmi les hommes et qu'il opère au milieu d'eux. L'exorcisme est une preuve du royaume, est une œuvre plutôt du royaume de Dieu. Le royaume, le pouvoir de Jésus nous montre bien que la puissance de l'âge à venir ont envahi le présent siècle mauvais. C'est la preuve que le royaume de Dieu qui appartient au futur a déjà pénétré notre âge. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste pour le futur, c'est aussi pour le présent. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Le royaume de Dieu doit arriver quand Dieu aura la victoire sur tous ses ennemis. Christ doit régner, il règne maintenant. Il doit régner jusqu'à ce qu'il ait fait de ses ennemis son marchepied, jusqu'à ce qu'il ait vaincu tous ses ennemis. Cette victoire va se réaliser en trois étapes. Comme la première victoire a déjà lieu dans la mort et la résurrection de Christ, le pouvoir du royaume de Dieu a déjà envahi le domaine de Satan dans le présent siècle. Le royaume s'établit en étapes. Ah, il a déjà commencé à s'établir. L'ange à venir est déjà rentré dans le présent. George Ladd a écrit un très bon livre qui s'appelle « The Presence of the Future », la présence du futur. Pour ceux qui s'intéressent, c'est assez théologique, par exemple, mais c'est intéressant. Et développe toute la théologie du royaume de Dieu présent. Les guérisons, les exorcismes nous démontrent que la puissance du royaume de Dieu est présente et active dans l'âge présent et nous montrent par le fait même, et c'est ce que Jésus a dit dans... Est-ce qu'il y en a qui veulent le lire pour le fun? Matthieu 12, 26? 29 plutôt? Dans le fond, c'est moi qui devrais le lire puisque c'est enregistré. Puis on a encore quelques minutes, fait que... Je pense qu'on peut prendre le temps de le regarder. Matthieu 12. 28. Donc, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Je vais lire dans la seconde. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Voyez-vous l'explication que Jésus donne? Jésus dit, « Moi, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Le royaume de Dieu est bel et bien parvenu jusqu'à vous. Autrement, comment est-ce que je pourrais faire ça si je n'ai pas déjà lié Satan? » Dans ce cas ici, oui, clairement. Par la puissance du royaume de Dieu. Par la puissance du royaume de Dieu, Satan a déjà été lié. Satan a déjà commencé à être tassé dans son coin. Le royaume de Dieu, le royaume à venir, a déjà envahi le mauvais royaume, le mauvais air, le mauvais âge dans lequel on vit. Avant même la première résurrection, manifestement. C'est ce que Jésus dit. Alors, on peut l'interpréter de différentes façons, peut-être. OK? Je ne te dis pas que c'est la même chose que le millénium. Je ne te dis pas que c'est ça. Mais je te dis que ça pourrait s'y apparenter, certainement. On voit quand Jésus envoyait les 70 aussi, Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel sur la terre. » Est-ce que Satan est déjà précipité? Jésus dit « Oui, je le voyais tomber sur terre. » Alors, des éléments qui amènent finalement les amillénaristes à dire que ben, peut-être c'est maintenant, là, puis que l'Apocalypse est très, très, très imagé, puis qu'on ne comprend pas tout. Mais bref, que ce soit, comme je te dis, honnêtement, peu importe la position eschatologique que vous avez, ça ne change rien à la théologie du royaume de Dieu, qui est pour l'avenir et qui maintenant a envahi l'âge présent. Donc, les bénédictions de l'âge messianique sont maintenant à la portée de ceux qui reçoivent le royaume de Dieu. Alors, si vous recevez le royaume de Dieu, ces bénédictions, les bénédictions de l'âge à venir sont déjà pour vous. Et on peut déjà jouir des bénédictions, comme la délivrance du péché notamment, résultant de cette première défaite de Satan. Si Satan n'était pas, encore une fois, François, peut-être pour répondre à la question, en quoi Satan est lié, bien, si moi je peux jouir déjà de la délivrance du péché, c'est parce que Satan, quelque part, il n'a plus l'autorité qu'il avait. Alors qu'avant, il n'y avait pas cette autorité-là. En fait, avant, il y avait cette autorité-là. Oui, le royaume de Dieu s'est approché et il est déjà présent. Alors, on ne jouit pas encore de la plénitude des bénédictions, okay, du royaume. Le royaume est pour l'avenir. Mais le pouvoir de Satan est brisé pour que les hommes puissent connaître le règne de Dieu dans leur vie terrestre. Et encore une fois, quelle que soit votre position eschatologique, ça ne change rien. Il y a bel et bien un millénium spirituel en ce moment et on est invité à y participer en entrant dans le royaume dès aujourd'hui. Alors qu'il y a un millénium terrestre après, soit, il y en a un, on va être bien heureux d'y participer, mais je sais une chose, il y en a un spirituel maintenant, et je ne voudrais surtout pas passer à côté de ces réalités, de ces bénédictions, en espérant quelque chose à venir, alors que j'ai quelque chose à la portée de main maintenant, par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit qui habite en moi. Alors, ça conclut notre leçon aujourd'hui. À la semaine prochaine.